France Inter.
France Inter. Le 18-20. Charlie, 10 ans après.
Quelque chose s'est brisé il y a 10 ans et pas sûr qu'on ait réussi à le réparer. L'attentat contre Charlie n'a pas tué la caricature. Il a probablement signé la fin de l'insouciance, on le demandera à nos invités. Dès après le 7 janvier, il a fallu expliquer la satire, le blasphème, l'irrévérence, autant de choses qu'on pensait aller de soi, que notre génération pensait aller de soi. Et on l'explique encore aujourd'hui. Le dessin, qu'on le veuille ou non, dans la presse, il recule, il perd de la place, comme la presse écrite perd de la place dans nos vies aussi. Le dessin fait peur aux puissants dans les dictatures et les pays en guerre, on en a parlé en première heure, mais dans nos démocraties, il fait peur à certains journaux et à certains pays. Le Danemark a été le premier à publier les caricatures et aujourd'hui, c'est le pays qui a quasiment rétabli le délit de blasphème. Le New York Times International a cessé de publier des dessins en 2019. Après une caricature de Netanyahou tenue en laisse par Donald Trump, le New York Times de New York avait cessé, lui, depuis un bon bout de temps. Les dessins aujourd'hui sont de moins en moins remis en cause par l'État. On n'est plus à l'époque d'Harakiri ou de Gaulle, mais ce sont les groupes, les associations religieuses ou pas d'ailleurs, qui viennent chercher des poux dans la tête des dessinateurs. Les dessins souvent sont sortis de leur contexte, de leurs journaux, du public auquel ils s'adressent, par les réseaux sociaux qui ont bouleversé évidemment la plupart de nos codes. Voilà où nous en sommes 10 ans après, voilà où commence notre discussion de ce soir avec nos invités qui sont tous dessinateurs de presse. On verra avec eux s'ils se considèrent comme une espèce en voie de disparition. L'attentat de Charlie il y a 10 ans en tout cas n'a pas tué la caricature, mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce qu'on s'en inquiète ou est-ce qu'il y a encore de beaux jours devant nous? Et ce serait tant mieux, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
France Inter, le 18-20, Charlie, 10 ans après.
Et c'est Tom, le premier c'est vous, bonsoir Tom.
Bonsoir Fabienne Saint-Pès.
Soyez le bienvenu.
Merci à vous d'avoir pris ma question.
Eh bien on vous écoute.
Eh bien moi je me pose cette question, est-ce que l'absence de dessin dans plusieurs médias grands mainstream, comme par exemple, vous avez très bien cité le New York Times, c'est un signe comme quoi les démocraties sont en recul, qu'il y a quelque chose qui se ferme. Après, sur les caricatures, moi j'en regarde, j'en lis, je suis pas tout à fait d'accord souvent avec elles, mais c'est ça qui est bien, c'est que on a le droit d'être d'accord, on a le droit d'en rigoler, et on a le droit de pas être d'accord. Et justement, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se perdre, c'est un dialogue sur ça. Et je trouve ça dommage et triste... d'en arriver là, quoi.
Eh ben, écoutez, dommage et triste, Tom. Merci beaucoup de votre appel. Merci de cette entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Coco qui est resté, qui est là depuis ce matin. Bonsoir, Coco. Enfin, entre temps, vous avez le temps de rentrer chez vous, voilà, de revenir.
Non,
on est d'accord. Mais oui, vous étiez bien sûr aux cérémonies. Vous êtes évidemment dessinatrice pour Charlie aussi pour Libé. Merci d'être là. Il y a Kak qui est là également. Bonsoir. C'est le quotidien, l'opinion qui est le vôtre dans lequel vous croquez.
Bonsoir.
Et Olivier Ranson. Bonsoir. Le dessinateur du Parisien. C'est vous. Il a peur, notre auditeur, Coco, qu'au fond, l'exemple du New York Times est peut-être un très très bon exemple, que ce soit le signe d'une démocratie en recul. Est-ce que vous employez ces mots, vous aussi?
Oui.
Plus de dessin, c'est une démocratie qui recule.
Oui, oui, je partage l'avis de cet auditeur. Merci pour la question. En plus, ce qui est assez... pervers de la part du New York Times, c'est que ce dessin, ils l'ont publié et voyant les réactions diverses sur les réseaux sociaux, c'est là qu'ils ont rétrompé d'aller et qu'ils ont dit on cesse le dessin de presse dans nos pages. Alors que le dessin de presse, c'est un élément de débat, de questions. Ça, on questionne le monde, on questionne la société, on questionne les actions de nos politiques. Et bien sûr, c'est un élément très important dans notre démocratie.
C'est souvent comme ça que ça se passe, non, Olivier Ranson? Dans le journal, il ne se passe pas grand-chose.
Et puis une nuance à apporter à ce qu'a dit Coco.
Apporter cette nuance.
Je me souviens très bien.
Je veux bien que vous approchiez du micro pour apporter votre nuance. Voilà.
Voilà. C'est que le dessin du New York Times, je m'en souviens très bien, il avait été... c'était un dessinateur brésilien, je crois qu'il avait fait.
Portugais.
Et le dessin portugais, Et il avait des relents un peu antisémites. Et ça, c'est le problème du dessinateur qui ne sait pas gérer ses symboles et ce qu'il fait. Parce qu'on est toujours sur le fil. Et évidemment, donc, moi, le dessin ne m'avait pas plu. Mais je trouve que de jeter le bébé avec l'eau du bain...
dire que pas plu, ce n'est pas un argument. Parce que pas plu, c'est exactement ce que disait Tom aussi.
Il a quand même été choisi. Ça a été un choix éditorial.
Donc, on a viré le dessinateur. On a viré tous les dessinateurs pour une incompétence du rédacteur en chef. qui lui-même n'avait pas su décrypter ce dessin. Ce dessin montrait Netanyahou avec une kippa, tenu en laisse par Donald Trump à l'époque, et il y avait une étoile de David dessus, diverses choses qui pouvaient prêter à confusion. Donc ce dessin me plaisait pas, mais j'ai pas téléphoné au New York Times pour leur dire de virer tout le monde, bien loin de là.
Mais j'entends bien, et c'est peut-être ça en fait qui s'est passé ces 10 dernières années.
Je peux dire que je suis pas d'accord.
Bah ouais, vous pouvez tout à fait dire que vous êtes pas d'accord.
On va vous démontrer que les dessinateurs de presse, c'est fait pour débattre.
Ouais.
D'abord, moi je trouve qu'il y a débat sur le caractère antisémite du dessin. D'ailleurs, je pense que s'il était clairement antisémite, jamais le New York Times l'aurait sélectionné. Ensuite, c'était pas un dessinateur maison, ils l'ont pris dans une banque d'images. Antonio, immense dessinateur portugais, qui est l'auteur de ce dessin, n'était même pas au courant que son dessin avait été pris par le New York Times. Il était dans une des banques d'images, comme il y a des agences photos, il y a des agences de dessin. Et ils ont quand même, à cause de la polémique, viré leurs deux dessinateurs maison, qui les pauvres Chapat et Heng, eux aussi de très grands dessinateurs internationaux, absolument pour rien dans ce dessin. Donc, il y avait quand même un vrai malaise avec le dessin de presse en général, quand vous virez des gens qui ne sont pas au courant. Mais après, sur le dessin, c'est Trump qui a une kippa, et c'est pas, il ne tient pas Netanyahou en laisse comme n'importe quel chien, Trump a des lunettes d'aveugle. Donc en réalité, le dessin, qui d'ailleurs n'avait pas été fait à cette occasion,
était donc beaucoup plus subtil que ce qu'on
était pour illustrer le fait. Qu'est-ce qui commande dans le dessin? C'est le chien qui commande dans le dessin. En fait, c'était pour illustrer le fait que Trump suivait aveuglément. Je suis obligé de l'expliquer, ce dessin, que Trump suivait aveuglément la politique de Netanyahou en Israël.
Oui, c'est vrai que c'était Trump qui portait la kippa et que ça me paraissait quand même à un moment. La kippa n'est pas le symbole.
Peu importe le dessin, c'est le comportement quand même du New York Times
qui avait choisi
le dessin et qui ensuite a dit terminé, on arrête, c'est trop de bordel le dessin. De presse, et c'est une décision évidemment pas courageuse du tout et catastrophique en termes de démocratie.
Alors, ça se serait passé en France, on aurait probablement hurlé et on aurait fait un lien avec Charlie, c'est trop le bordel, effectivement, comme vous dites, le dessin de presse. On est aux États-Unis, est-ce que c'est encore pire ou est-ce que ça veut dire que c'est tout le monde, en fait, tous les journaux se posent les mêmes questions et parfois ont les mauvaises conclusions, CAC.
Alors, aux États-Unis, je ne fais que reporter ce que nous racontent les confrères qui travaillent là-bas. En gros, ils disent aujourd'hui, le dernier sujet sur lequel on dessine, c'est la politique. Parce que là, on peut se lâcher. Alors, ils peuvent y aller comme nous, quasiment sans limite. À part la nudité, qui est vraiment tabou aux États-Unis. Mais sinon, sur tous les sujets de société, racisme, égalité femmes-hommes, évidemment religion, etc., terminé. Ils nous disent vraiment tous. Et le nombre de dessinateurs de presse aux États-Unis, je crois, a été divisé par 10 en 30 ans. Donc c'est une vraie hécatombe.
Nous aussi, d'ailleurs.
Et ils n'y vont plus. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, la dessinatrice de presse du Post, Anne Telnes, a démissionné parce qu'elle venait de faire un dessin qui impliquait notamment, mais pas uniquement, Jeff Bezos.
En fait, on y voyait, pour les gens qui nous écoutent, on y voyait une espèce de statue qui représentait Trump. On le voyait qu'à moitié, mais on voyait son gros bidon. En fait, donc on voyait bien que c'était lui et la cravate. Et devant lui, il y avait des millionnaires qui arrivaient tous en procession avec leurs sacs de billets. On reconnaissait très bien Bezos, on reconnaissait Zuckerberg.
Même Mickey.
On reconnaissait Mickey, effectivement, qui était très mignon là-dedans.
Et ce dessin, il a été refusé par la rédaction en chef. Donc, c'est pas un actionnaire qui s'est plaint, c'est que les rédacteurs en chef sont devenus très prudents et très craintifs.
Alors, justement, j'allais vous poser la question. Vous, Coco, j'imagine que ça n'a pas changé. Moi, je me souviens qu'on s'est déjà parlé dans cette émission-là. Vous dessinez ce que vous voulez et vous n'êtes pas soumis. Est-ce que vous êtes soumis à Charlie Hebdo comme à Libé? Vous le montrez, votre dessin, avant? Ou il n'y en a pas un? Il n'y a pas de plan B, quoi?
Non, je propose tout ce que j'ai envie de proposer, que ce soit à Charlie comme à Libé. Charlie, qui est quand même un journal satirique, indépendant et extrêmement libre. Et Libé, j'y suis allée aussi. Pourquoi ? Parce que Willem avait dessiné pendant 40 ans dans ce journal de manière extrêmement libre. Donc j'y allais bien sûr sans crainte et pour ça, pour dessiner avec ma grande liberté. Donc je propose tous les dessins que j'ai envie de proposer. Et bien sûr, après, il y a un choix éditorial qui se fait en fonction de l'actualité, en fonction de l'actu chaude, de l'actu froide. Ça, c'est varié.
Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, vous dessinez un truc et vous dites, pour Libé, vous dites non, alors ça, je vais plutôt le laisser à Charlie, c'est plus Charlie que Libé. Ça existe, ça? Ou est-ce que c'est interchangeable, Charlie et Libé, pour le dessin?
Dans certaines idées, je sens bien qu'il y a des idées que je peux avoir qui seraient plus dans la patte Charlie, mais j'aime bien secouer un peu Libé aussi, à leur proposer des trucs qui sont un peu mordants. J'essaye J'essaye, en fonction de l'inspiration, déjà de trouver soit des choses graphiques, soit quelque chose qui soit éditorial ou un peu plus satirique. J'aimerais bien être toujours plus féroce. Après, parfois, ça arrive, mais on cherche, c'est aussi un laboratoire.
J'aime bien le mot féroce, parce que c'est un mot de Wolinski qui disait toujours « un dessin n'est jamais méchant, mais il est féroce ». Il y a une vraie différence, effectivement, entre les deux. Je voudrais vous poser la question à tous les deux aussi, Olivier Ranson et Cac, parce que vous, Olivier, par exemple, vous êtes dans Le Parisien. Le Parisien, c'est un journal populaire, c'est un journal qui est très largement diffusé. Le dessin n'est pas le même, vous ne feriez pas le même dessin que celui que propose Coco à Libé. Et si vous travaillez pour Libé, vous feriez probablement un truc... Beaucoup plus féroce.
Oui, vous merci de reconnaître que j'ai aucune liberté au
Parisien. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ça dépend de. Ça dépend de votre lectorat, en fait. Mais cela dit, oui, vous avez le droit de me dire que pas du tout.
Moi, la façon dont je travaille, c'est. J'ai un sujet qui m'est imposé, puisque c'est celui d'ouverture du journal. Okay. Sauf quand. Évidemment, le sujet est trop. Est trop dramatique, où là. Il me dispense de travailler ou il me renvoie dans les pages intérieures sur un sujet, disons, moins sensible.
Le sens de ma question, c'était s'adapter aussi à ceux qui vous lisent, puisqu'on parle de contexte et que tout est question de contexte. Et c'est bien ça d'ailleurs qui pose des questions aujourd'hui, parce que c'est tellement devenu tellement compliqué. Vous parlez à d'autres gens, vous, dans Le Parisien, aujourd'hui, donc il y a un autre contexte. C'était vraiment le sens de ma question.
Ben oui, effectivement le cas. Prenons l'exemple, je déflore pas le sujet, mais demain, la une sera sur Jean-Marie Le Pen. J'ai fait un dessin en pensant aux Parisiens, pensant au lectorat du Parisien. Mmh. Donc je me dois d'être plutôt, je ne vais pas dire neutre, ça ne serait pas le cas.
Plus rond, est-ce qu'on peut dire plus rond plus narquois que féroce.
Oui, voilà.
C'est un peu pareil dans l'opinion, Cac, ou pas? On choisit entre narquois et féroce ou
Je pense que quand un dessinateur de presse ou une dessinatrice accepte de travailler avec une rédaction, forcément, ça veut dire qu'il se sent à peu près à l'aise avec la ligne éditoriale. Ouais. Ça arrive qu'on ne soit pas d'accord avec ce qu'ils disent précisément dans le papier qu'on illustre ou dans la une du journal ce jour-là. Mmh. Ça arrive, mais que globalement, en tendance, on est plutôt en accord. Donc, avec l'opinion journal libéral, je dis gentiment libéral, je dis parce qu'il y a des gens qui ça hérisse le poil quand on dit le mot libéral. Qui est lu essentiellement par des chefs d'entreprise, par exemple, et des cadres, y a un certain ton de dessin. Alors, je fais plusieurs propositions à la rédaction, donc quand même, il y a plusieurs tonalités. Des fois, d'ailleurs, ils prennent celui qui est le moins gentil, ça arrive.
Est-ce que vous vous amusez des fois à leur donner un truc en disant celui-là, il passera jamais, mais j'y vais.
Toujours.
Putain, moi, évidemment. Oui,
toujours,
évidemment.
Parce que j'ai envie d'entendre un éclat de rire dans le. On appelle ça le bocal, là où il y a les rédacteurs chefs. J'ai envie d'entendre un éclat de rire, même si je sais que ça passera jamais. Et je travaille aussi pour Franc-Tireur qui est dirigé par Caroline Forest. Qui a travaillé pour Charlie Hebdo, où là, pour le coup, je sais que je peux aller un peu plus loin et que ça peut être un peu plus noir et un peu plus féroce, comme dirait Coco.
Allez, retour au standard avec Céleste. Bonsoir Céleste.
Bonsoir.
On vous écoute,
bonsoir,
Céleste.
Fabienne, bonsoir à tous les invités.
Bonsoir.
Je voulais simplement dire merci à Charlie, surtout en ce 7 janvier 2025. C'est important pour moi de le dire. J'avais donc 8-9 ans au moment des attentats et maintenant j'en ai 18. Et donc je suis une fervente lectrice de Charlie Hebdo. C'est important, Charlie, parce que je trouve qu'il permet de s'offusquer. Et j'adore m'offusquer devant Charlie, me dire que c'est osé.
Ça fait plaisir.
Mais en même temps, quoi de plus fou pour illustrer un monde fou que des illustrations folles? Et au final, Charlie rend compte et pointe l'absurdité de la réalité de notre monde. Et c'est pour ça que, merci tout simplement de continuer à nous faire rire, à nous faire pleurer, à nous faire nous dire qu'on est quand même dans un monde assez absurde. Et voilà.
Et on vous a entendu, on a aussi entendu l'émotion. Céleste, merci beaucoup. Elle vient droit au cœur de tout le monde et de Coco particulièrement. Et elle a raison, notre amie Céleste, Coco. Et j'adore cette phrase. Offusquez-vous. C'est à ça que vous servez. Hein. Si vous choquez pas, c'est que vous avez raté votre cible. Non, peut-être d'ailleurs.
oui, exactement. On est là pour s'offusquer. On est là pour un dessin. Ça doit claquer comme au flipper. Quoi. Ouais. Ça doit vraiment, au bout d'un moment, provoquer quelque chose, une réaction. Moi, j'aime bien quand les dessins font réagir. Et juste pour un petit mot pour notre auditrice, on entend souvent le fait que la presse a un lectorat vieillissant. Ouais. Je suis très contente d'avoir jeune femme là qui prend le micro et qui dit mais en fait elle n'est pas unique. Ouais. On se rend pas mal dans les écoles avec notre association Dessiner, Créer et Liberté et on va faire de la pédagogie sur le dessin de presse et en fait on a tendance à penser que les jeunes sont frileux à la caricature. sûr, c'est pas toujours le cas. Au contraire, il y a des jeunes comme Céleste ou même plus jeunes encore qui sont demandeurs et puis qui questionnent le ce qu'on a à faire avec les jeunes de plus importance, c'est leur apprendre que par exemple quand on critique les religions, on se moque pas des croyants. Ça c'est quelque chose qui revient souvent.
Parce que ce qui revient souvent aussi, CAC, par exemple, c'est qu'il y a une rupture générationnelle. Effectivement, on l'a tous vu dans les derniers sondages, c'est les 15-24 ans qui sont le plus difficiles à convaincre. Est-ce qu'il y a réellement une rupture générationnelle? Est-ce que c'est dû au fait, c'est pour ça qu'on est content effectivement d'entendre Céleste, qu'au fond, nous les vieux, on a l'habitude du papier. On adore toujours acheter du papier. Nous, on est malheureux. La rédaction d'Inter, on n'en a plus du papier. On est obligé de lire sur des écrans. Et donc, on a cette habitude-là. Et donc, la caricature va avec. C'est quelque chose avec lequel toute une génération n'a pas été élevée, en fait. Et nous, oui. Donc, déjà, on ne part pas sur le même pied d'égalité, peut-être, en fait.
Alors, c'est évident que le dessin de presse, ça se décrypte, ça s'apprend. Parce que c'est bourré de codes. D'ailleurs, un dessin de presse, il y a très peu de dessins de presse qui sont internationaux, qui marchent partout dans le monde. C'est très codé culturellement, la forme de l'humour, les choses jusqu'où on peut aller dans l'humour. L'auditrice a dit quelque chose que je trouve absolument fondamental et très surprenant, donc je la félicite. Elle a dit qu'elle aime être offusquée.
Oui, mais c'est ça,
offusquée. Pour moi, au-delà du dessin, il y a quelque chose, j'ai la sensation, qu'il y a quelque chose qui est en train de se perdre. C'est le fait d'accepter, en particulier maintenant qu'on navigue avec ce contenu infini qu'est l'Internet, d'accepter d'être confronté à des idées qui sont contraires aux nôtres. Alors qu'en réalité, il faut les chercher, ces idées. C'est ça qui nous fait évoluer. C'est tout d'un coup, vous avez des points de vue contraires. Vous savez, ces dîners où en fait, on est tous d'accord, ces débats qu'on organise, on est tous d'accord. C'est super chiant. On n'apprend rien. Alors que tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous dit le contraire. Alors vous pouvez vous offusquer et dire et arrêter d'écouter, mettre les mains sur les oreilles. Ou alors vous pouvez vous dire, tiens, il pense le contraire de moi. En fait, c'est intéressant intellectuellement. Parfois, il va pas vous faire changer d'avis. Parfois, il va vous faire douter. Parfois, il va vous faire affûter vos arguments. Mais en fait, c'est ça qui est passionnant. Et donc, pour aller sur Internet, il faut pas lisser le contenu de manière à ce que ça choque personne. Il faut faire l'inverse. Il faut que ce soit l'internaute qui se forme au fait d'aimer être offusqué ou en tout cas d'accepter le fait qu'il va tomber sur des choses qui correspondent pas à ses opinions.
Vous allez les chercher sur les réseaux, Olivier Ranson, ou pas? Pendant un moment, vous étiez beaucoup sur Facebook. Je ne sais pas si vous y êtes autant.
Oui,
enfin, toujours autant.
Je ne dois plus être dans mes amis, Fabienne.
Mais toujours, mais c'est moi qui y suis moins. C'est pour ça que je me posais la question, en fait. Mais c'est vrai que pendant un moment...
Je continue et je mets des dessins que je ne passerai pas dans Le Parisien.
Alors, par exemple... Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, effectivement, qu'on va chercher ces interdits, et qu'on va les poser sur Facebook.
Oui, je mets des statuts monstrueux qui font rire mon public. Bon, je peux vous donner un exemple.
Allez-y.
Il n'est pas trop tôt, là, voilà.
Ouais.
J'ai dit récemment, Maïté est partie dans son sommeil, c'est pas Gisèle Pelicot qui aurait fait ça.
Okay.
Voilà, ce genre de choses. C'est difficile à illustrer, mais... Je suis toujours content de pouvoir un peu pousser le bouchon un peu plus loin et de provoquer dans ce registre.
Voilà,
oui,
alors
sur les réseaux sociaux, je fous des dessins qui ne sont pas passés ailleurs, qui passeraient pas au journal, parfois parce qu'on me les a pas demandés, parfois parce qu'ils sont pas retenus, et je continue à faire ma promotion, mon autopromotion, comme ça.
Celui du gâteau d'anniversaire, là, par exemple.
Il a été proposé au journal, mais ça n'a pas été celui qui a été retenu. Puis moi, je l'aimais bien, et donc je l'ai fait aujourd'hui.
On va le dire aux auditeurs, le gâteau d'anniversaire, c'est pour les 10 ans de Charlie, et c'est Mahomet qui sort du gâteau et qui dit...
Quand
je peux sortir du gâteau, il y a un petit monsieur qui lui dit non, tu ne sors pas.
Tu ne sors pas, et qui tasse le couvercle du gâteau. C'est l'image de Dalton City, du gâteau de Lucky Luke, qui sortait du gâteau. Et là, on empêche Mahomet de sortir.
Et à votre avis, pourquoi c'est pas celui-là qui est choisi? Parce qu'en fait, moi, je le trouve meilleur que celui du Parisien de ce matin.
Dans la merde, c'est bon.
Non, mais c'est vrai, honnêtement.
Non, ces gens proposent, ils choisissent en fonction du lectorat. Et puis, effectivement, il reste, depuis Charlie, malgré le soutien de la presse, une sorte de frilosité.
J'allais vous poser la question, est-ce que c'est parce qu'on voit sortir le petit Mahomet? Alors pourtant, Dieu sait qu'on ne le voit pas beaucoup, avec son petit turban dans son petit gâteau, gâteau.
Enfin, il est suggéré.
Mais donc, on se dit, voilà, on lui suggérait que c'est lui. Et parce qu'évidemment que moi aussi, en le voyant, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est ça la raison, en fait.
Peut-être.
Mais bon.
Je ne sais pas. Je veux dire, ça, c'est un combat que j'ai mené. J'avais raconté une histoire. La presse a soutenu Charlie, mais c'était bien gardé, avant, dès la première histoire, de reprendre les caricatures du prophète. Or, si les caricatures du prophète étaient parues partout dans la presse, il n'y aurait pas eu d'affaire Charlie.
C'est ce que beaucoup ont dit, effectivement. Si tout le monde, comme il l'avait dit, d'ailleurs, à la base, comme il y avait eu cette espèce de promesse, avait publié, ça ne se serait pas passé.
Mais en même temps, ce qui est frappant, c'est que... Bon, d'abord, c'est vraiment navrant à chaque fois qu'on est dessinateur de presse. Mais là, l'actualité, c'est normal qu'on en parle aujourd'hui, l'actualité nous y oblige. Mais c'est l'avant qu'à chaque fois on nous demande, et toi tu dessines le prophète comme si le matin on se levait en se disant tiens aujourd'hui je vais me taper les musulmans. Enfin, ça marche pas du tout comme ça. Ce qui est frappant, c'est que dans l'association où je m'occupe, Cartooning for Peace, on travaille avec 370 et quelques dessinateurs du monde entier. Et en fait, il y a régulièrement des dessins, avec régulièrement 5-6 fois par an, je vois passer des dessins qui représentent le prophète. Et très souvent, ça ne provoque aucun problème. Ouais. Parce que la façon dont le dessin est fait, ça se moque quand même de la religion en général, mais la façon dont le dessin est fait, on ne sent pas une agression. Mm-hmm. Parce qu'en fait, avec un dessin de presse, comme avec n'importe quelle blague que vous allez faire à n'importe qui, il y a toute la question de l'intention. C'est-à-dire, est-ce que vous avez confiance dans l'intention de la personne qui émet le trait d'humour à ce moment-là? Et à partir du moment où des gens ont été catalogués, je pense notamment à la rédaction de Charlie, ils ont été injustement catalogués par beaucoup de gens, comme je ne sais pas comment il faut dire, islamophobes, en tout cas comme n'aimant pas les musulmans, ils vont pouvoir se permettre beaucoup moins de choses que d'autres dessinateurs qui sont plus gentils, et quand eux ils font une vanne, tout d'un coup ça passe. Moi ça m'est arrivé de faire des dessins sur la religion, comme j'ai plutôt une image de dessinateur gentil.
Non, je voudrais juste revenir, pardon, sur ce que tu disais. Ouais. Dessiner Mahomet, c'est pas de taper sur les musulmans.
Bien sûr.
Dessiner Mahomet, déjà, c'est pas une obligation religion, quand on critique la religion, mais quand on en vient à dessiner un prophète, c'est pour critiquer les dérives de la religion, les intégrismes, les fanatiques. C'est par exemple la une de Cabu, Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par les cons. Je prends cet exemple parce que c'est un exemple universel, selon moi, intemporel. Là, on voit très bien la cible, c'est l'intégrisme qui est dans le dessin.
Que vous avez détourné d'ailleurs, CAC, après le rapport Sauvé, je crois.
Oui.
Avec Jésus. Avec Jésus, effectivement. Qui était...
C'est dur d'être aimé par des monstres.
Exactement. Voici Alain qui est au standard. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, voilà, moi je suis un petit peu un original, donc je suis abonné à des journaux, j'ai renouvelé mes abonnements pour le dessinateur.
Par exemple, non, mais oui, je ne changeais rien.
Je veux dire, par exemple, je suis abonné au Midi Libre. Au départ, c'était pour suivre le rugby du club de Béziers, mais je suis déçu par la couverture, mais Man me fait éclater de rire à chaque dessin. Ouest de France, c'est pareil, le cyclisme n'est pas couvert comme je l'aurais cru pour cette terre de vélo, mais les dessins de Chaunu tous les jours, on s'éclate quoi. Alex sur les réseaux sociaux, le coq des bruyères. Et je peux même vous dire que j'ai annulé mon abonnement au journal de Saône-et-Loire parce que le dessin de Laurent Salle ne paraît plus là depuis un an. Au départ, la vérité, c'était pour un sujet, mais le sujet ne me convenait pas, mais je continue à payer dans les 16 euros par mois pour chaque titre, pour le dessin, et je considère que quand on a un cerveau dans la boîte crânienne, on ne peut que aimer les dessins, les comprendre, et respecter et aimer les dessinateurs. Celui qui n'aime pas un dessin, pour moi, il a une boîte crânienne qui est vide, quoi.
Ben voilà, Alain, c'est une belle conclusion, Coco, celui qui n'aime pas le dessin, une boîte crânienne vide. Ça fait toujours plaisir, en fait, d'entendre ce genre de choses et de se dire que... Je me demandais en début d'émission si vous étiez un peu les derniers des Mohicans, en fait, parce qu'il y en a de moins en moins des dessinateurs de presse.
Ah, monsieur fond, est un peu dur, quand même, parce que on a le droit de ne pas aimer un dessin.
On a le droit, mais totalement, ouais.
Mais
ou un dessinateur, un trait, on a le droit de plein de choses, mais effectivement... combien vous êtes, sérieusement? Est-ce que j'ai lu 38 en France?
Qui ont la carte de presse?
Ouais, ouais. Alors, 34.
Je crois
qu'il y a une trentaine, oui. 35, alors que.
Donc 4 femmes, je crois.
Il y a peut-être 50 ans, ouais, ouais. Il devait y avoir 250. Ouais. C'est vrai que ça s'est considérablement réduit. Je pense que le métier s'est simplement aussi précarisé. Il y a des gens qui. Il y a des dessinateurs qui travaillent, mais qui sont indépendants ou qui travaillent à la pige et puis qui sont.
Et puis la presse écrite s'est précarisée. Enfin, je veux dire, oui. ça va aussi
de manière
ensemble.
Générale, absolument.
Et, parce que quand je parlais tout à l'heure, Olivier Ranson, de la culture de la BD dans la presse, encore faut-il qu'il y ait un journal, encore faut-il qu'il y ait toujours des journaux qui soient vivants. Et alors, pour le coup, nous, en France, on a encore des aides à la presse, on essaye de survivre autant qu'on peut. On parlait des États-Unis tout à l'heure, ce sont parfois, dans des tas d'endroits, des déserts informationnels d'une telle ampleur qu'au fond, on n'a jamais vu une caricature.
Je rappelle que Warren Buffett, qui était le financier qui avait fait fortune simplement en spéculant, avait racheté des journaux il y a quelques années, je ne sais pas où c'en est, des petits journaux locaux. Je ne sais pas si ces journaux emploient
autour
des dessinateurs,
lui,
mais il y avait quelqu'un qui croyait encore à ce moment-là et qui s'était rarement trompé dans ses pronostics économiques et qui croyait encore à la presse locale, à l'information directe et à ce genre de choses. Mais c'est vrai que je le vois autour de moi, mes enfants lisent sur les réseaux, j'arrive à les intéresser au journal au titre papier, pas forcément le mien, mais c'est difficile. Et dans les transports en commun, vous ne voyez plus personne déployer un journal.
Et ce n'est pas pour cafeter, nous dit Christophe sur WhatsApp, mais Ranson dessine aussi dans un hebdo du web, et même qu'il a dessiné Coco. Bam ! Voilà, c'est ça qui
quand
se passe.
Ça,
sur oui, c'est possible, oui.
C'est possible. ça doit être vieux parce qu'on ne dessine pas les femmes, c'est chiant à dessiner.
Oh là là, c'est pas possible.
Ah bah, égal à lui-même. Voici Christophe au standard. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir, meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous.
Et puis un grand merci à Coco pour tous ces témoignages, et puis surtout ce pacifisme dans sa voix quand elle témoigne, c'est admirable. Moi, je voulais réagir à ce qu'avait dit Céleste, et ça m'a rassuré parce que j'ai 30 ans de plus qu'elle, j'ai 50 ans, et j'ai grandi avec Gabu et Dorothée, moi. Et
je me suis demandé, moi aussi.
Voilà, je me suis demandé si c'était pas ça, en fait, qui nous avait éduqués à la satire et la caricature, d'avoir grandi devant ce petit bonhomme avec ses lunettes rondes qui se moquait de Dorothée, qui était pour nous la grande sœur qu'on rêvait d'avoir. Et quelque part, après, jeunes adultes, on avait eu cette éducation à la moquerie, à la satire, à la caricature, et quelque part, quand Dorothée est partie et que Cabu est parti des écrans pour les tout-petits, quelque part, on a perdu une éducation citoyenne qui manque peut-être aujourd'hui. Donc je suis rassuré d'entendre qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment les dessins, mais on a vu aussi qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ça, et souvent des jeunes. Donc est-ce que c'est pas ça qui nous manque aujourd'hui? C'est un apprentissage des tout-petits à ce qui fait notre identité, la caricature et la satire.
Et pourquoi pas, Coco, je sais que vous devez filer dans peu de temps, je vais vous laisser la réponse à cette question-là,
oui.
Parce qu'on y va dans les écoles, alors pour expliquer bien sûr ce que c'est, mais pourquoi pas aussi pour jouer comme Cabu le faisait effectivement à Dorothée, moi aussi j'ai ce souvenir-là, il
mais
dessinait
oui,
des Dorothées avec des nez hyper pointus.
Il en mettait plein la tête à Dorothée, c'était
absolument
vraiment drôle avec le chien,
exactement.
Il parlait de tout, et c'était des dessins même un peu cruels parfois, mais les gamins étaient là, étaient fous de ces images-là, parce que c'était drôle, et puis parce que c'est aussi dans ces petits trucs un peu cruels qu'on trouve le rire, c'est pas quand tout est lisse, c'est un peu chiant, mais dans ces images-là, voilà, ça provoque le rire. Et ce qu'on essaye de montrer, nous, dans les écoles, on a fait un kit pédagogique, par exemple, pour parler de caricature, de l'histoire de la caricature, la censure de Charlie Hebdo, d'Harakiri Charlie Hebdo, de parler des religions, de parler des réseaux sociaux. On essaye, en montrant des dessins, en les décortiquant, et simplement en rigolant aussi avec les gamins, en leur montrant ça, et ben tout de suite ils sont pris là-dedans, ils sont extrêmement curieux parce que c'est un âge où on découvre, on se cherche et on découvre des choses, et puis on aime se marrer. Donc le rire, le dessin, ça se transmet quand même très facilement.
Et je trouve ça intéressant ce que nous dit Coco, Olivier Ranson par exemple, parce que si on découvre la caricature sur un dessin politique, quand on est gamin, qu'on comprendra pas forcément, etc., on le vit pas de la même manière que quand on la découvre effectivement avec le nez pointu de Dorothée, comme Cabu le faisait quand on était tous gamins. Quoi. Approchez-vous du micro, je sens que vous allez commencer sans
Non, je vous alors
je m'en vais.
Et ben merci Coco qui doit s'en aller, merci beaucoup, ouais. C'était un plaisir. À très bientôt, bien sûr, dans le téléphone sonne ou ailleurs, d'ailleurs. Bien sûr, merci.
Oui, je rappelle qu'il y a eu d'autres expériences. Moi, j'ai participé, j'ai dessiné chez Fogiel en direct,
ouais.
Puis après, à la revue de presse sur Paris Première, qui continue, d'autres le font. Mais Cabu, il avait, rendu le dessin formidable parce qu'il était télégénie, qui passait à la télé, ouais. Et il les accompagnait. C'est une chose qui était pour moi, en tout cas, difficile. C'est chaque fois que je fais une animation graphique, je me mettais en retrait, je ne voulais pas intervenir, et je ne voulais pas qu'on me regarde et je ne voulais pas qu'on me parle. Mais il y a des utilisations du dessin qui pouvaient se faire comme ça. Et bon, bah, simplement, la diffusion, c'est restreinte. On ne peut plus toucher les enfants. Ah, j'ai sorti une phrase de pédophile, on ne peut plus toucher les enfants, je suis content de moi.
Bon. Okay.
Mais il y a quand même encore un usage du dessin qui est un bon exercice pour l'humour dont parlait Coco, c'est-à-dire de mettre les gens, les déstabiliser et les obliger à réfléchir contre eux, en quelque sorte.
Cac, là-dessus, est-ce qu'il faudrait éduquer, encore
Mais
une fois,
on
éduque à ce qu'est la... On éduque à ce qu'est le blasphème, on éduque à ce qu'est l'irrévérence, mais éduquer au dessin, en fait, tout simplement.
On le fait, en fait, quand on va avec Cartooning for Peace, ou comme disait Coco, avec Dessiner, Créer, Liberté, l'association créée par Charlie, pour faire de la pédagogie à partir du dessin de presse, quand on va dans les lieux d'enseignement, école, collège, lycée, donc il y a toutes les catégories d'âge, les ateliers qui sont faits par des dessinatrices et des dessinateurs, il y a une partie un tout petit peu théorique, le dessin de presse, qu'est-ce que c'est qu'une allégorie, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore, des choses comme ça, mais surtout on les fait dessiner. Donc on leur apprend. Et en fait, en les faisant travailler sur comment faire un dessin de presse, en les faisant travailler sur l'autodérision, moi souvent je leur dis, bah, commencez par me dessiner moi, allez-y, lâchez-vous. Mmh. Franchement, déjà ils voient que l'autodérision c'est possible. Et après, à chaque fois, après les ateliers, les élèves qui étaient un peu réticents au départ disaient, ouais, le dessin de presse quand même, ils en ont fait un. Et en fait, ils commencent à comprendre, mmh. ils commencent à voir où on veut aller. Et on en revient à l'intention. C'est quoi l'intention? Il y a un truc très important, si vous êtes, je parle aux auditeurs, gêné, choqué par un dessin, demandez-vous d'abord quel est le message de ce dessin. Parce que souvent, on est choqué graphiquement, par la métaphore choisie, par l'exemple, parfois par la violence du dessin. Mais quel est le message? Finalement, qu'est-ce qu'il essaye de vous dire, le dessinateur? Et dans le fond, on est souvent d'accord à ce que le dessinateur essaye de dire.
Et en même temps, et c'est marrant parce que ça revient à ce qu'on disait au fond sur le dessin du New York Times au début, si on est obligé d'expliquer, et c'est de donner de l'explication, c'est qu'on a foiré son dessin, non?
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, vous avez énormément de réactions, il n'y a même pas une tentative de comprendre. Mmh. La personne s'est choquée tout de suite, avec un yeux, tout de suite, elle va vomir, je dis vomir parce que c'est un espèce d'instantané, ça sort comme ça, une opinion négative, voire de la haine. Alors que ça se digère, il faut regarder. Alors après, on peut ne pas être d'accord. Et si on n'est pas d'accord, on le dit calmement.
Oui, on peut le
on le dit calmement. C'est ça la liberté d'expression.
On peut le trouver raté. Il vous arrive, j'imagine, de rater des dessins les uns les autres. Enfin voilà, l'idée était bonne, l'idée n'était pas bonne. Ou alors qu'ils sont reçus différemment. Et ça, c'est la vie. Agnès est là. Bonsoir, Agnès.
Oui, bonsoir. Justement, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que moi, je suis enseignante et je vois les générations qui s'éloignent un petit peu de la considération du rire qui dénonce, du second degré. Et je me demandais, l'histoire de la caricature ne devrait-elle pas faire partie intégrante du programme scolaire, en fait, sur la réflexion sur le regard subjectif et le second degré, justement, et le rire qui dénonce?
Ben écoutez, Agnès, j'imagine que tout le monde est d'accord, forcément.
C'était possible d'enseigner le second degré, ça serait extraordinaire. Je pense que c'est un acquis culturel, de toute façon, qui part de soi-même. C'est qu'on apprend soi-même à se distancer des choses qui nous font, qui nous choquent ou qui nous font souffrir, et que l'usage de l'humour et du second degré permettent de mieux vivre dans ce genre de choses. Mais hélas, je ne sais pas comment ça s'apprend.
Est-ce que vous êtes des dessinateurs inquiets? Vous me disiez quand même, vous êtes 33 encartés réellement, c'est pas beaucoup. Est-ce que au fond, on vient de passer une espèce de cycle, effectivement, qui est un cycle probablement un peu compliqué, de moins en moins nombreux, c'est de plus en plus difficile. Je le disais tout à l'heure, c'est plus l'état. On disait que Cabus faisait taper dessus par l'armée tous les 4 matins, c'est fini ce genre de choses, mais ce sont des groupes, des associations, c'est plus difficile aujourd'hui. Est-ce qu'on se dit parfois c'est cyclique? Et la caricature, de toute façon, ne mourra jamais? Ou est-ce que parfois, on s'inquiète en se disant, un jour, il n'y aura plus de dessin dans la presse?
La question, c'est dans la presse. Je pense qu'il y aura toujours du dessin d'humour, fait par des professionnels, tant qu'il y aura de l'argent pour les payer, fait par des amateurs quand il n'y en aura plus. On l'a vu d'ailleurs. Ce qui est hyper rassurant, c'est de voir quand il y a les grands moments de crise où les gens sont hyper inquiets. Souvenez-vous, pendant la Covid, on se retrouve enfermés à la maison par notre propre état, une espèce de truc complètement dingue. Et là, il y a eu une résurgence d'humour. Mais alors, il y a eu de l'humour, et beaucoup de dessins, et beaucoup de dessins faits par des amateurs. Ouais. Parfois des enfoirés qui avaient des idées meilleures que nous. Ouais. Et donc, franchement, il faudrait qu'ils nous les filent. Je pense que le côté cyclique, c'est surtout que notre employeur, la presse écrite, va mal. Ouais. Donc forcément, à un moment donné, vous devez couper dans les budgets, vous êtes rédacteur, vous enlevez le journaliste, il fait les articles, ou le photographe ou le dessinateur, le choix, il est vite fait.
Moi, je pense qu'on doit d'abord enlever le rédacteur, parce que l'IA va remplacer plus facilement l'information que l'humour.
C'est vrai. Cela dit, les expériences, quand on s'amuse, parce qu'on le fait nous souvent dans une chronique, on embrasse Stéphane Jourdain le jeudi, en général, c'est plutôt sur l'humour que l'intelligence artificielle est nulle. Sur le reste, non, mais sur l'humour, ma foi. Il nous reste peu de temps, mais on a du temps pour vous, Anna. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Heureuse de vous avoir au téléphone. Je suis beaucoup vos émissions et bonne année à tous.
Merci.
Je voulais dire que j'ai découvert la caricature à l'âge de 9 ans, j'ai 64 ans, donc vous voyez, ça fait longtemps. Et j'allais chercher les journaux à la marchande de journaux, et mon frère, qui avait 15 ans, était abonné à Harakiri. Et c'est comme ça que j'ai découvert la caricature, parce que, et je m'en rappelle encore maintenant, c'était un Christ sur une croix, et j'ai découvert le mot en même temps que je l'ai lu, et en plus, il lui avait peint la bite au cirage. Voilà, c'était ça. Et j'ai découvert le mot, et du coup, après, j'allais piquer les harakiri à mon frère pour regarder un petit peu toutes ces caricatures. Et j'ai continué après, quand je suis devenue un peu plus grande, avec évidemment Charlie et tout, le canard enchaîné et tout, et toutes les autres caricatures. Et ce que je voulais dire, j'essaye de transmettre ça à mes enfants, mes petits-enfants maintenant. Et je trouve que c'est extraordinaire, et il faut vraiment continuer à inculquer ça aux enfants, et surtout d'accord avec l'auditrice de tout à l'heure qui disait, il faut vraiment qu'on soit comment avait-elle dit déjà choquée, enfin je passais...
S'offusquer, qu'il faut... Offusquons-nous.
Oui,
si tous les offusqués pouvaient se donner la main, le monde serait nettement meilleur. Merci beaucoup, Anna, merci vraiment. Je voudrais revenir justement, et au regard de ce que dit Anna sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, les dessins existeront toujours, c'est les journaux qui risquent d'être un peu en difficulté, mais ce qui est terrible, c'est que si les dessins existent toujours, mais qu'il faut... Mais sans les journaux, ça veut dire que chacun va chercher, au fond, le dessin qu'il a envie de voir sur le site qu'il a envie de voir et dans le rail dans lequel il a envie de rester.
Et là, ce serait le contraire de notre métier.
Et voilà, on aura perdu. Et
c'est malheureusement favorisé, on le sait tous maintenant, hein, c'est clair pour tout le monde, c'est favorisé par les algorithmes qui nous mettent dans des bulles de choses, de contenus qu'on aime et de choses. Hein. Et je pense que ça va avec ce que je disais tout à l'heure, on perd l'habitude de tomber sur des opinions contraires, sur des choses qui nous dérangent. Et moi, c'est ce que j'aime. Je lis Charlie toutes les semaines, je lis Ciné Mensuel, Psychopathe, Fakir, enfin, j'essaie de voir, je regarde les journaux internationaux. Il y a des dessins que j'adore, il y a des dessins que j'aime pas, là, mais je veux tous les voir parce que c'est ça qui est intéressant. Franchement, c'est comme ça qu'on grandit intellectuellement.
Demain, vous savez déjà ou pas, ou même vous l'avez déjà fait, parce qu'après tout, l'actualité politique étant ce qu'elle est, vous l'avez déjà dessiné, votre
Le Pen? Oui, moi j'illustre l'article de Une, la Une de demain de l'Opinion, c'est sur la façon dont Elon Musk joue avec la politique en Europe.
Ah, mais c'est intéressant. Donc vous n'êtes pas sûr, voilà. Jean-Marie Le Pen voit l'Opinion demain matin dans le truc de Une.
C'était trop tard pour moi, malheureusement.
Et vous aussi?
Non, moi j'ai bossé sur Le Pen, c'est le sujet a changé en cours de journée, j'avais déjà travaillé pour anticiper l'horaire auquel je devais venir, mais donc j'ai fait un dessin sur Le Pen qui correspond au journal et je veux juste raconter un dessin qui n'est pas passé.
Très vite.
Où il y avait le gars qui disait « Le Pen est mort le même jour que les dessinateurs » et il y avait le Mahomet que j'avais dessiné et qui disait « Comme je l'ai dit il y a 10 ans, ceci n'est pas l'islam. »
Et ben voilà, dessin refusé donc.
Dessin pas passé, voilà.
Allez, la question des petits bateaux ce soir, c'est celle d'Augustin, il a 5 ans et demi.